Bien, bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans l'après-midi. Alors nous allons aborder maintenant la question du choc en retour, c'est-à-dire une connaissance mouvante, une connaissance qui peut se remettre en question du passé. Et cela avec des invités extrêmement variés et dont chacun d'ailleurs a bien souvent un comportement pluriel dans ses choix, ses intérêts, etc. Alors je vais commencer par le très attendu Christopher Priest qui a failli ne pas être des nôtres aujourd'hui. Bon, aux Utopiales, on ne présente plus Chris, mais bonjour quand même, ça fait très plaisir. Alors Chris nous parlera certainement de l'inquiétude qu'il provoque dans son étude du passé à travers ses romans. Nous avons également Sébastien Chartrand qui... Sébastien, vous nous parlerez aussi de votre parcours parce que votre biographie est extrêmement riche d'expériences, ce qui doit, je pense, votre passé multiple doit enrichir votre présent. Alors, Guillaume Lecointe, vous nous parlerez en tant que scientifique, enseignant-chercheur, zoologiste. Là aussi, très intéressant, vous travaillez pour le Musée d'Histoire Naturelle. S'il vous plaît, parlez-nous-en, parce que s'il y a bien un rapport mouvant au passé, c'est bien celui-ci. Et enfin, Jaouan, qui est à mon côté, qui lui aussi travaille dans son rapport toujours remis en question du passé avec notamment Nova, Projet Hanté, c'est bien ça? D'accord. Et Cartajo Bluff Creek. Et Eternum, donc dont vous nous parlerez. Alors, d'habitude, on considère que le passé est quelque chose de stable, de figé, d'advenu. Et donc, qui ne peut être remis en question, puisque, semble-t-il, pour la conscience commune, le passé est passé, et donc il n'est plus. Or, continuellement, à travers la vie de chacun, notre expérience individuelle, nous avons tendance à revenir au passé via la mémoire, les souvenirs, etc., mais aussi en tant qu'entreprise collective, comme la recherche scientifique ou la création artistique, le passé n'est pas quelque chose de figé, de mort, mais quelque chose qui semble nourrir notre présent. Or, ce qui est intéressant aussi, c'est l'inquiétude que l'on peut provoquer à l'égard du passé, ce qu'on appelle notamment la continuité rétroactive, qui va consister à proposer une relecture de ce qui semblait acquis, le passé, à travers des éléments nouveaux ou semblant nouveaux dans le présent. Et donc, ma première question générale, personnelle, est pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui, fondamentalement, marque votre intérêt pour le passé? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez au passé? Alors peut-être, justement, puisque dans un premier temps, c'est une inquiétude méthodologique, Guillaume.
Bonsoir. Oui, alors le passé m'apparaît passionnant. Passionnant d'abord parce qu'il est contraignant. C'est lui qui nous fournit des racines. Il est contraignant parce qu'on nous avons des marges d'action que nous pensons nous donner à nous-mêmes, nous pensons bénéficier de marges d'action, sans toujours avoir conscience que ces marges d'action, elles sont évidemment encadrées par un héritage qu'on ne peut pas changer. Hein. Dans le monde réel, pour un scientifique, il y a des relations de cause à effet entre des événements, et si on les décrit bien, on pourrait dire qu'elles s'inscrivent dans un certain déterminisme. Et donc, nous sommes habitués, à la fois dans notre vie quotidienne et dans les sciences expérimentales, à suivre le sens du temps entre des événements qui ont des relations de cause à effet. Et là, on n'a pas l'impression de construire un récit, puisque nous nous adressons au monde réel à travers l'expérience scientifique, Et ce monde réel, il nous résiste. Il nous résiste et il est à travers l'expérience, on essaye de le faire parler. Ça, c'est une recherche scientifique tournée vers comment ça se passe ici et maintenant, comment le monde se passe ici et maintenant, et si mes lois et si mes théories sont exactes, qu'est-ce que je peux prédire dans un avenir proche ou plus lointain à partir de ce que je sais ici et maintenant. Ça, c'est le modèle de science qui a dominé au XXe siècle. Au XIXe, c'est un peu différent. On accordait autant d'importance aux sciences expérimentales, le ici et maintenant, aux sciences qui s'intéressent au qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Et aujourd'hui, nous voyons au XXIe revenir dans les programmes scolaires, dans l'imaginaire, une image de science qui marche un peu mieux sur ses deux pieds. Les sciences du comment ça marche ici et maintenant et qu'est-ce que je peux prédire, d'un côté, et d'autre part, les sciences tournées vers le passé et qui expliquent qu'est-ce que c'est que ce machin et d'où est-ce qu'il vient. Et là-dedans, il y a par exemple les sciences de l'historien. Les historiens sont exactement dans cette logique. Mon métier, c'est cette logique-là. Ma spécialité scientifique, c'est la phylogénie. Je suis phylogénéticien, désolé pour le mot tordu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous reconstituons les relations de parenté entre les êtres vivants. Je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Donc on raconte l'histoire naturelle, justement. Et nous reconstituons, comme l'historien, à partir de faisceaux de présomption tirés de la nature actuelle, nous reconstituons des conditions du passé, ancestrales, qui ont donné naissance à ces faisceaux de présomption tels qu'on les voit. C'est exactement la mécanique de raisonnement du commissaire de police. Le commissaire de police, il y a eu un meurtre, il a des faisceaux de présomption, et son travail, c'est de rétrodire, en quelque sorte, construire un récit. Il n'y a pas tous les éléments, il n'a pas toutes les relations de cause à effet, et justement, comme il ne les a pas toutes, il va faire une espèce de patchwork, de puzzle incomplet, pour reconstituer quelques-unes des relations de cause à effet qui ont pu avoir lieu. Et évidemment, pour chacune, il y a une marge d'erreur. Et donc, en ce sens, oui, le passé me semble davantage, peut-être que je me trompe, mais me semble davantage reconstruit. On refait un récit, on a même des abus de récit, on en a parlé dans une table ronde hier, on a même des abus de récit, c'est-à-dire que parfois nous en racontons un peu trop en rapport à ce que nous savons, des traces qu'ont laissées les causes qu'on essaie d'éclairer. Alors, pour donner des exemples de profession, le commissaire de police, donc je le disais, maximise la cohérence des faisceaux de présomption d'ici et maintenant, de manière à reconstituer un scénario le plus cohérent possible des conditions initiales qui ont donné naissance au meurtre. L'historien fait la même chose, le phylogénéticien fait la même chose. Et pour terminer, je dirais, pour dire à quel point les sciences du passé avaient été perdues de vue au XXe siècle, on rencontre souvent encore aujourd'hui, plus à l'époque où moi j'étais à l'école, des élèves qui lèvent la main et qui disent « Oh, finalement, les sciences de l'évolution, les sciences du vivant, c'est pas de la science parce que personne n'y est allé avec sa caméra pour vérifier ce qui se passait. » Et ça montre la perte de repères par rapport à ces sciences-là. Il faut répondre immédiatement à ce genre d'objection, mais quelle raison vous avez de penser que la bataille d'Austerlitz a vraiment eu lieu? Alors là, tout à coup, l'élève... la bataille d'Austerlitz, non, mais on a des traces. L'évolution biologique, les signes d'apparentement entre les êtres vivants, les fossiles, tout ça, ce sont des traces. Et donc, c'est la même épistémologie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un témoin oculaire de ce qui s'est passé en histoire pour reconstituer un scénario extrêmement cohérent de l'histoire. D'ailleurs, en s'emparant des mêmes faisceaux de présomption, un autre historien que moi-même peut très bien vérifier si mon scénario est cohérent. L'histoire, c'est de la science, parce que nous testons mutuellement des scénarios historiques. Donc ce passé, oui, se construit, et parfois, on en reparlera peut-être, comme il se construit, il fait l'objet de quelques abus de construction.
Ce qui est intéressant, c'est votre rapprochement entre la science que vous exercez et le commissaire, puisque L'étymologie du mot historien, historikos en grec, c'est l'enquêteur, justement, celui qui remonte des effets à la cause. Et justement, Stéphane, cette remontée, elle n'est pas toujours facile, voire même elle est à remettre en question. Et vous, ce qui vous tient à cœur, c'est les non-dits, les éléments truqués, peut-être, de l'histoire. C'est ce qui fait qu'on doit réinterroger le passé.
Oui, tout à fait. Vous remarquerez à mon parler que je viens du Québec. Puis, l'une des choses qui est extrêmement préoccupante au Québec en ce moment, c'est que dans le système d'éducation, on a décidé de retirer... Les Canadiens anglais ont décidé de retirer la bataille des plaines d'Abraham. Donc, l'histoire commence officiellement en 1759. On a retiré la colonisation française du corpus à l'école primaire. C'est un type d'obscurantisme qui ne date pas d'hier, qu'on voit énormément. Il n'y a qu'à penser aux découvertes de Karl Marx du Grand Zimbabwe. À l'époque, c'était la Rhodésie, où là, Karl Marx refusait de croire que le Grand Zimbabwe, des ruines fabriquées en granit, aurait pu être construite par une population noire. Et c'est pourquoi il a inventé un scénario totalement farfelu à propos de gens de la Perse qui seraient venus construire à cet endroit-là. Là, vous allez me dire, c'est au 19e siècle, oui, mais avec l'apartheid, on a censuré tout scientifique systématiquement qui pouvait prétendre que ces ruines-là avaient été construites par des peuples noirs. On a refusé de reconnaître l'origine bantoue jusqu'au début des années 80, et même maintenant, en Afrique du Sud, on continue de se battre pour qu'on reconnaisse l'origine bantoue du Grand Zimbabwe. Et on lui préfère encore le scénario farfelu des Perses ou même d'une copie du temple d'un hypothétique... expédition envoyée par le roi Salomon qui aurait pu construire ces endroits-là. C'est quelque chose qui se voit énormément. On le voit aussi chez les Américains qui refusent de reconnaître à l'est du Mississippi qu'il y a eu chez les Cherokees, ou plutôt chez les ancêtres des Cherokees, une civilisation de type métropole très similaire à celle qu'on voit en Amérique du Sud. Les Mound Builders, les construiseurs de tumulus. Puis on peut voir des ruines à cet endroit-là immenses qu'on refuse de mettre à jour parce que ça devient quelque chose d'extrêmement préoccupant pour l'Américain blanc de concevoir que ces Amérindiens qu'on a parqués dans des réserves ont pu en réalité avoir un tel degré d'urbanisme. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de la génétique, encore cet obscurantisme-là, il ne faut pas perdre de vue qu'une grande quantité d'écoles américaines préfèrent faire table rase sur toute la théorie de l'évolution puis enseigner le créationnisme et uniquement le créationnisme en rejetant toutes les preuves que vous ameniez sur la théorie de l'évolution. C'est quelque chose que je trouve extrêmement préoccupant.
Ce qui fait qu'en fait, le passé n'est pas du tout protégé par le fait qu'il est passé. Justement, j'avoue, qu'est-ce qui, dans... le passé qu'on pourrait penser figé est source d'inspiration dans le présent. Si le passé est mort, voire même trucable, qu'est-ce qui fait qu'il peut provoquer une création artistique, chez vous en tout cas?
Moi, je me positionne plus du côté de la forme que du fond. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se dégage... le côté visuel, vous l'avez dit. Donc, dans l'histoire, on a des... on a beaucoup de documentation. Donc déjà, moi, d'un point de vue professionnel, je peux facilement étayer un dessin avec de la documentation qui existe, qui a eu lieu. Donc, moi... étrangement, je me sers de l'histoire pour projeter justement une vision futuriste. Donc, je ne me situe pas dans l'Uchronie, mais en tout cas, ce qui motive et ce qui est un moteur pour ma création, c'est d'utiliser de la documentation existante et puis de la fantasmer. Donc en ce sens-là, pour moi, l'histoire est importante puisqu'elle elle produit une base fondamentale que j'utilise tous les jours. Après, je suis moins érudit que mes confrères, donc
Non, ça va pas beaucoup plus loin. En fait, pour vous, le passé a un matériau qu'on va façonner, transformer.
Bien sûr. Oui, c'est une matière qu'on aille en moins 8000 à l'époque mésopotamienne ou même en 45 pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Il y a dans les vêtements, dans même les matériaux utilisés pour construire les habitations, les armes. On y réfère toujours. L'histoire, pour ça, elle a écrit certaines choses qu'on ne peut pas renier. Donc moi, je rebondis là-dessus, enfin modestement, mais ce qui m'intéresse, je ne suis pas dans la nostalgie du passé, mais j'aime y référer pour faire des choses plus visionnaires, enfin, bon, modestement aussi, mais...
Ouais. En fait, vous avez beaucoup plus de points que ce que vous pensez avec Christopher Price, parce que ça semble être effectivement une façon de faire artistique. Christopher, pour vous, le passé a toujours, ou en tout cas très souvent, le passé aussi bien collectif que individuel est un matériau qui est malléable, transformable, etc. Vous l'avez toujours montré. Et qu'est-ce qui fait que aussi bien l'individu à travers la mémoire que l'écrivain à travers un récit collectif, on parle souvent de la guerre, la Seconde Guerre, qu'est-ce qui fait que le passé doit être mis en question, doit être bousculé chez vous? Vous le faites tout le temps.
Bonjour. Je suis désolé, mon français était terrible. So I have to speak in English. I hope I can make myself understood. History is an exact science. There's no point writing history with mistakes, so all historians try to get things right. The problem is there are always gaps in what they can find, so they have to declare what they don't know. And it's those gaps which interest fiction writers, because we can then move in and say, well, those 3 years that you have no record of, we happen to know that such and such happened. And this causes a lot of historians trouble. They don't like that idea. They don't like the idea that history can be re-examined by artists. However, I think we have a duty to question history. I think history is essentially incomplete and wrong. I can produce all sorts of evidence. If you look back in your own life, probably the most reliable history that you have is your memory. And yet, how sure are you that your memory is true? I know in my case, I've often remembered things and said to somebody, oh, you remember that time we did this? And all of a sudden, you realize that that person has a different version of what happened. And it's not the same. It's not the same thing. And so you start thinking, why did I say that? And in effect, I think a lot of us reinvent the past. If we tell a story, you know, when I was coming to Nantes today, I was on this train and such happened. And I won't describe it exactly as it happened. I'll try and make it funny or angry or have a point. I will fictionalize it in some way to make that story true. So, in one sense, the oral tradition, the folklore, the stories, the memories, are inherently unreliable. But however, the witnesses to history are part of history. Historians, therefore, depend on a lot of documents. But I think that documents are always questionable. We discovered, for instance, during the Second World War, that the Nazis fabricated many of the documents. A lot of the documents were seized after the war by the Soviet Union, and many of them are still there. And, I mean, some have come out, but our knowledge of the documentary history of the Second World War is still incomplete. And I'm sure it's true of many other events. At the moment in Britain, there's an inquest going on into how the Iraq War started. And I can tell you 100% there's going to be lies told. The truth won't come out because there is no virtue in the truth for the people who start wars. You start wars for the bad reasons, and when you have to account for it, you lie about it. And so I think all history is very questionable. And I think I'll stop there. That's all I have to say for the moment.
Bah justement, cette action et ces changements d'humeur présents peuvent influencer la lecture qu'on a du passé. C'est Bergson qui parlait du mouvement rétrograde vers le passé, que l'ombre du présent se projetait dans le passé. Et Guillaume, tout à l'heure, vous abordiez le fait que dans un même présent, sur des mêmes données, des chercheurs peuvent avoir des analyses ou des théories très différentes, et ce qui fait que le présent risque, si je puis dire, de proposer différentes lectures, parfois contradictoires, du passé, même en science.
Je dirais même surtout en science, parce que je reviens sur la caractéristique de la démarche scientifique de l'historien, c'est justement de proposer à ses pairs, P-A-I-R-S, de proposer à ses collègues une version, un scénario expliquant les conditions d'origine de l'état présent du monde, mais avec une routine de mise en cohérence que les interlocuteurs sont censés pouvoir utiliser aussi. Alors, il y a différentes versions de ces routines. Si ces routines sont formelles, si elles sont même mathématisées, c'est le cas de l'histoire naturelle. Aujourd'hui, on a des routines informatisées pour maximiser le degré de cohérence des faisceaux de présomption entre eux et pouvoir calculer la pertinence d'un scénario, un scénario phylogénétique. Mais peu importe les relations d'apparentement, ce scénario phylogénétique, il vous met en ordre l'apparition des différents organes au cours du temps. La colonne vertébrale apparaît il y a 500 millions d'années, l'humérus et le fémur il y a 380 millions d'années, le nez c'est 40 millions d'années, le coccyx c'est 25 millions d'années. Bref, on peut raconter une histoire du corps et on a des routines formelles, ce qui fait que les historiens du vivant arrivent effectivement assez vite à converger vers des scénarios communs parce que la routine de mise en cohérence, elle est disponible pour tout le monde. En revanche, peut-être que de ce point de vue-là, l'historien est un peu moins bien outillé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore mis en place de mise en cohérence formelle. Cette mise en cohérence, elle se fait non pas dans un ordinateur, mais elle se fait par l'intelligence propre du chercheur. Néanmoins, elle est quand même soumise au filtre collectif de la validation. Et tôt ou tard, on devrait normalement converger vers un même scénario. Mais avant qu'on ne converge vers un même scénario, ce que vous dites est vrai, il peut y avoir, effectivement, si les données ne sont pas suffisantes, monsieur disait tout à l'heure, les données de l'histoire sont parcellaires, elles sont lacunaires, forcément, y compris chez nous, le registre fossile, c'est pareil, il est lacunaire. Eh bien, avant de pouvoir se mettre d'accord, un même présent peut être éclairé par différentes histoires. Et sur ce point, il y a quelque chose que j'aime dans le passé, ou du moins dans les sciences historiques, c'est que même si le temps qu'elle se stabilise, le présent peut être éclairé de différentes façons, néanmoins, elle montre comment le présent est contraint. Et ce que j'aime dans les sciences de l'histoire, c'est qu'elles, par exemple, elles ont un rôle extrêmement révélateur sur les idéologies. Il y a une relation antagonique très forte entre l'idéologie et les sciences de l'histoire. Un système idéologique va vouloir se réemparer de l'histoire, la réécrire à son bénéfice pour remporter l'assentiment, pour se légitimer en quelque sorte. Et la relation avec l'histoire, elle est tout de suite conflictuelle. L'idéologie a besoin de refaire l'histoire pour se légitimer, alors que l'histoire, si on la laisse libre de faire ce qu'elle veut, va au contraire mettre l'idéologie à poil, pour le dire clairement, c'est-à-dire d'éclairer les conditions de naissance du système tel qu'il existe. Alors dans tous les régimes totalitaires, on refait l'histoire, et dans les systèmes religieux aussi, on refait l'histoire, on se re-raconte une histoire pour légitimer un pouvoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que les sciences en général, l'histoire comprise, hein, les sciences en général ne font pas bon ménage avec les systèmes politiques autoritaires.
Alors, vous tracez une voie royale vers Stéphane, parce que tout à l'heure vous abordiez la question du créationnisme et en fait même aussi bien le passé peut faire l'objet de multiples interprétations que le présent connaît des poches temporelles différentes. Par exemple, dans un supermarché, au rayon surgelé, peuvent se croiser un individu qui vit dans un univers qui a 13,7 milliards d'années et un autre 4000 ans. Et donc justement, ces idéologies qui se côtoient dans le présent peuvent-elles, selon vous, finir par aboutir à ce filtre collectif, à un passé commun en dépit d'eux ? Est-ce qu'on peut vivre en étant dans deux univers différents, un qui a plus de 13 milliards d'années, un qui a 4000 ans créé par Dieu?
Bien entendu, on peut coexister, du moins je l'espère, dépendamment de nos croyances. Néanmoins, je pense qu'il y a une ouverture vers l'autre, vers les faits qui sont considérés comme valables par l'autre. Si on veut qu'il y ait cohésion envers chaque système, si on veut que toutes ces interprétations-là puissent fonctionner en une seule interprétation, ou du moins en des interprétations différentes, mais toutes cohérentes entre elles, il faut accepter de se débarrasser de certains a priori.
Mais il faut l'accepter pourquoi?
Si on veut que chacune de ces interprétations puisse, non pas coexister, comme je disais, mais plutôt fusionner, peut-être pas un terme approprié, ce serait grossier. Converger, peut-être, oui, ou du moins s'organiser dans un tout cohérent. Jusqu'à présent, j'ai pas vu de partisans de la théorie de l'évolution se basant sur les faits avérés fonctionner avec un créationniste convaincu. Il faut à tout le moins accepter que peut-être que, par exemple, c'est pas une opinion personnelle, mais que par exemple, l'évolution est le moteur avec lequel le divin façonne le vivant, et puis arriver à une espèce de zone grise, de sous-ensemble où les idées peuvent se rejoindre. Et dans ce cas-là, oui, sinon, ben, on vit chacun dans nos esprits, dans des univers parallèles.
Oui, et en retour, j'avoue, par exemple, c'est dans le présent que vous réinventez un passé, mais c'est un passé créé, c'est un passé artistique. Et donc, justement, pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ramener le passé dans le présent, le réinventer, comme vous l'avez dit, l'aspect esthétique, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter dans le présent?
C'est très égoïste.
Pour... Je suppose, j'imagine, pour vous, beaucoup de travail de recherche, tout ça. Donc, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui...
En fait, je faisais... je parlais de documentation tout à l'heure. J'y fais pas forcément référence. J'en cherche pas tant que ça. C'est plutôt quelque chose de... Une conscience de ce qui a existé. Je fais plutôt partie des dessinateurs qui travaillent de mémoire. Donc, je me suis toujours dit, plus jeune enfant, que pour devenir un jour dessinateur, il fallait que j'accumule une grande quantité de documentation. Donc tout ce que je regarde, j'essaye de l'enregistrer. Et ça passe par les photos de l'histoire, des reproductions des peintures, d'époque, etc. Donc ce qui m'intéresse, c'est de piocher là-dedans, même inconsciemment. Je vais chercher des... Et d'en faire quelque chose de nouveau. Alors fondamentalement, je fais rien de nouveau puisque tout a déjà été fait, mais il passe par moi et ça le rend unique, et c'est ça qui motive moi mon désir du dessin, c'est de faire quelque chose de qui m'est propre, et en ce sens là bah, je fais partie de l'histoire aussi puisque je viens piocher dedans. Donc je suis un peu écarté de la question là.
Non, si je peux me permettre une grille de lecture de ce qu'on vient d'entendre, globalement. Il y a plusieurs fois le mot cohérence qui a été utilisé. Et moi, la cohérence, c'est l'idée majeure qui fait les passés se raconter les uns les autres. Dans les objectifs que tu viens d'énoncer, tu vas utiliser une cohérence rationnelle pour atteindre un objectif qui consiste... finalement à faire, dis-moi si je me trompe, à faire rêver, à faire fantasmer sur des passés possibles ou sur des futurs possibles. Donc là, on a une cohérence mise au service d'un récit, mais qui n'a pas d'autre prétention que de nous évader, de nous faire s'évader. Dans le cas du créationniste dont on a entendu parler tout à l'heure, il va essayer d'avoir un récit cohérent, il va utiliser une espèce de cohérence, mais pour se construire un récit qui le rassure, ou qui rassure ses co-religionnaires, on va dire. Hein. Quant au scientifique, lui aussi, il utilise des routines de mise en cohérence, mais dans le but de raconter une histoire testable. La testabilité, tu n'en as pas besoin, c'est pas ton but. Les créationnistes ne veulent surtout pas de la testabilité. Ils veulent construire un récit figé. Alors que ce qui caractérise le scientifique, justement, c'est l'ouverture au PAIRS, c'est une histoire de règles du jeu. si la règle du jeu de l'explication scientifique est respectée par les pairs, PAIRS, eh bien, il y a une testabilité qui se met en place. Allez-y, pour l'instant, le scénario de la bataille d'Austerlitz, c'est celui-là. C'est le meilleur scénario qu'on ait. Il est fiable. Hier, Étienne Klein disait les scientifiques se méfient de la notion de vérité, et je m'en méfie aussi. Surtout s'agissant de l'histoire. Les scénarios sont fiables. Au stade où on peut les décrire, vous pouvez vous y fier. Mais j'aurais du mal à penser qu'un historien puisse dire « ceci est la vérité ». Il va dire « ceci est ce qu'on a de mieux au moment voulu » dans une logique où on peut interroger le scénario, on peut le tester. Donc vous voyez, c'est trois de la cohérence, mais elle est cherchée dans trois objectifs mentaux, dans trois fonctions mentales différentes. Et les faire se contredire les unes les autres, c'est absurde. Les scientifiques ne cherchent pas spécialement à contredire les religions, ça ne les regarde pas. Les scientifiques ne cherchent pas spécialement à empêcher les gens de rêver. Ce n'est pas du tout leur but. Par contre, les créationnistes, s'ils ont un défaut, et là, il faut bien le dire, c'est que c'est eux qui viennent mettre le pied en science. Parce qu'ils se qualifient eux-mêmes, pas tous, hein, mais certaines franges...
Je seconde ce que vous amenez tout à fait. Oui, voilà, vous avez raison.
Certaines franges d'entre eux se qualifient eux-mêmes de scientifiques et vont aller chercher un vernis de science pour essayer... d'atteindre l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Or, elles ne sont pas faites pour ça. Donc, c'est là qu'on a des télescopages entre science et idéologie. Et ce n'est pas les sciences qui le provoquent, c'est les franges conservatrices de ces mouvements religieux. Pas tout le mouvement religieux, mais seulement la frange conservatrice. Voilà.
Bah, peut-être aussi parce que la vérité est un enjeu qui dépasse la science. Il y a des vérités de foi... qui sont des moteurs, par exemple, chez les créationnistes. Et Christopher, vous avez, dans toute votre œuvre, montré que le vrai n'est qu'une portion du réel. La fameuse cohérence dont il a été question, ben, il vous arrive de la bousculer régulièrement. Et justement, chez vous, le vrai compte moins que le réel. Et certains passés sont tout autant réels que le vrai présent. Vous pourriez nous parler de votre rapport au passé, notamment par rapport au passé de la mémoire, de le passé intime, le passé subjectif.
Okay. I'll take a very concrete example, which is the work of one of the greatest British politicians, Winston Churchill. Now, Churchill, during the Second World War, made a number of speeches, which are now famous. I'm sure you've heard them here in France. The interesting thing about these speeches is that, in every case, they were delivered first to Parliament. And the versions spoken in Parliament are actually a matter of record. They're full of distractions, they're full of interruptions. They were taken down by shorthand writers at the time. So there is a verbatim record of what Churchill actually said. The version that you've heard was delivered on the radio, but this was usually broadcast the same night or the next day. And it was delivered by an actor who was imitating Churchill. He did the voice. The speech was edited to make it consistent. It was cut for time, and in general it was acted. So the actual text that you've heard is a fake. And at the end of the war, when Churchill was retired, he didn't like the idea that all his famous speeches were delivered by this actor. Incidentally, this is not a guess or a hunch. It's a matter of historical fact. The actor was a man called Norman Shelley, a well-known actor in Britain, and he died only recently. Churchill decided that he didn't like Norman Shelley's versions of the speeches, so he re-recorded them. And in doing so, he polished them. And so it's almost impossible to know the reality of what Churchill actually said. The gist of it is there. And to a large extent, they're supported by us. We remember what he said, we think we know what he said, and the message gets across. A similar example exists in Germany, where the speeches of Adolf Hitler were again delivered in a kind of ramshackle way. Some of them were recorded, some of them were taken down, some of them were filmed. It doesn't matter because today they're now declared to be copyright. And so you can't quote the Hitler speeches, except with permission of the Bavarian government. And they will only let you have certain sections of Hitler speeches. So again, history is unreliable. I find this endlessly fascinating. People will not accept that there are facts which occurred. They have to be reinvented in some way.
Cette réinvention, elle est, Guillaume, très présente en science. On pourrait presque dire, en faisant simple, que la science, elle fabrique son propre passé. Il y a des pans entiers, la science qui tombe, etc. Quel est votre rapport avec les faits scientifiques passés qui ne sont plus pertinents? C'est du respect, c'est laissé sur le bas-côté de la route. La science passée, la science finie, vous y êtes attaché encore?
Oui, parce que elle est extrêmement instructive sur la façon dont nous fonctionnons, nous, les scientifiques, dans nos raisonnements. Quels avaient été les éléments qu'on n'avait pas pu voir alors qu'on aurait pu les voir? Qu'est-ce qui a fait? Quelles sont les conditions, peut-être même économiques et sociales, qui font que certains faits qui étaient disponibles, on n'a pas su les voir? Ça nourrit extraordinairement notre compréhension du rapport entre les faits et les théories. Il n'y a pas de théorie sans fait, il n'y a pas de fait sans théorie, les deux marchent ensemble. Souvent nous avons dans la tête cette idée que les faits seraient nobles, les faits seraient indiscutables et que les théories ne seraient que des spéculations. Cette idée évidemment ne décrit pas la véritable activité des scientifiques. Les scientifiques ont besoin qu'une théorie donne son sens à un fait. Un fait tout seul, sans une théorie qui donne son sens, n'explique rien, enfin ne dit rien sur le monde. Donc les conditions, oui, les scénarios qui sont tombés nous renseignent sur les raisons qu'on avait eues de penser que ce qui est tombé est fiable. Alors donnons tout de suite un exemple, on ne va pas rester dans l'abstraction trop longtemps. Par exemple, nous avons longtemps considéré, depuis 1980, que la disparition des grands dinosaures non aviens, hein, les dinosaures sauf les oiseaux, leur disparition aurait été due à la chute d'une météorite géante, dont on a d'ailleurs la trace concrète dans le golfe du Mexique, hein, à moins 65 millions d'années. On a un méga cratère d'impact considérable, hein, et à lui tout seul, ce cratère, pensait-on, a pu perturber l'ensemble de la biosphère et provoquer la mort d'une grosse partie des gros animaux de l'époque. Ce scénario, il a été cru d'abord parce qu'on avait effectivement ce méga cratère d'impact comme preuve, mais c'était aussi le moment où les États-Unis d'Amérique se préparaient. Le moment où le scénario devenait crédible, c'est le moment où les États-Unis d'Amérique de Reagan préparait la fameuse guerre des étoiles, et que dans l'imaginaire, l'impact de missiles embrasait l'imaginaire des Américains, et ce scénario a eu comme un coup de foudre pour ce scénario, au-delà de ce que les seules données permettaient d'y apporter du crédit. Alors, par contre, on disposait déjà de l'âge des grands épanchements basaltiques à la surface du globe, et notamment les grands épanchements basaltiques, vous savez, c'est du basalte, hein, c'est de la roche volcanique. Ils témoignent d'événements volcaniques géants. Et il y a une corrélation extraordinaire entre ce qu'on sait des grandes extinctions au cours de l'histoire du vivant et l'âge des différents épanchements de basalte dont on dispose à la surface du globe. La plus grande extinction qui ait jamais été documentée, c'est celle de la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire, il y a 250 millions d'années. Et on a des kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres cubes d'épanchements basaltiques qui datent de cette époque-là en Sibérie. Et bien là, pour la limite Crétacé-Tertiaire, c'est-à-dire l'extinction des dinosaures non aviens, eh bien, ces épanchements sont en Inde. Et on aurait pu les prendre au sérieux, ces épanchements, comme une activité volcanique de suffisamment longue durée pour provoquer une acidification des pluies, pour provoquer un obscurcissement, un refroidissement, puis un réchauffement, puis un refroidissement, des choses qui, en général, déciment les espèces. Mais surtout, on aurait pu tirer profit de cette corrélation, hein, extraordinaire sur 550 millions d'années. il y a 55 extinctions massives. Donc on a en moyenne une extinction massive tous les 10 millions d'années. Et la plupart de ces extinctions sont bien corrélées avec des épanchements volcaniques extrêmement importants, alors qu'elles ne sont pas du tout corrélées avec la chute de météorites. Donc j'ai envie de dire, la météorite dont on a tous entendu parler, qui aurait provoqué l'extinction d'un dinosaure, cette météorite, c'était la cerise sur le gâteau, c'était un épiphénomène. Certes, ça n'a pas arrangé les choses, mais les volcans avaient déjà bien fait le boulot, quoi. Et oui, on révise nos histoires, effectivement, et ça nous rééclaire d'une autre façon aussi nos aveuglements. Voilà.
Mais justement, Stéphane, par exemple, dans vos travaux, on voit qu'on peut vivre dans le présent à partir de modèles passés très différents, ou pour parler simple, je peux très bien naître, vivre et mourir dans un univers présent où la Terre est plate. Il y aura pourtant des grands penseurs, des grands artistes, et la Terre est pensée comme plate. Je sais plus trop quelle forme elle a aujourd'hui, la Terre, mais est-ce que vous pensez que c'est enrichissant de conserver tous ces modèles de représentation dans le présent, ou est-ce que c'est arrangé dans le placard de l'histoire, dans le musée de l'histoire?
Oh non, absolument pas. Il est extrêmement intéressant de préserver ces modèles-là du moment qu'on est ouvert au libre dialogue, du moment qu'on est ouvert à échanger des idées, à partager. Si vous, par exemple, pensez que la Terre est cubique et que moi, je la crois conique, j'ai aucun problème à ce que nous ayons chacun cette idée du moment que nous pouvons discuter, présenter, argumenter, peut-être avoir une petite controverse, mais chacun être ouvert au pour et au contre de nos idées, puis s'enrichir mutuellement de nos visions différentes. Du moment où...
À condition qu'à la fin, vous acceptiez qu'elle soit cubique.
C'est comme ça que ça fonctionne en France, c'est ce que j'ai compris. Mais néanmoins... du moment où les idées sont cloisonnées, pour pas dire blindées, du moment où on refuse de s'ouvrir à ce que pense l'autre, du moment où on refuse de penser que l'idée de l'autre peut être aussi pertinente, peut-être même plus pertinente que la nôtre, ou peut-être pas une variante de pertinence, mais du moins de crédibilité ou de possibilité, là, ça devient extrêmement dangereux. Et je pense que oui, on se doit de cumuler les faits puis de considérer des scénarios possibles ou même plus probables. Et puis c'est ceux-là qui, je pense, doivent guider nos décisions en tant que société. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'il existe d'autres scénarios qui, bien que impossibles ou peu possibles, peu probables, sont parfois intéressants pour repenser. La marque a été mise un peu brutalement au placard après les écrits de Darwin, puis est revenue par la suite dans la discussion. Dans le même ordre d'idées, et puis ça n'a pas été pour ramener le lamarckisme, mais juste pour ramener, du moins j'ai fait mes études aux États-Unis, c'est là que Lamarck est revenu un peu, je ne sais pas comment ça a été de ce côté-ci de l'océan. Toutefois, je pense que les idées ne doivent pas nécessairement être mises au placard, mais peut-être considérées comme moins, des scénarios moins probables, quitte à les ressortir, non pas pour les adopter, mais pour réalimenter le débat, puis ressourcer nos pensées pour avoir de nouvelles idées.
Justement, vous avez bien raison d'insister sur la notion d'échange et de débat, de dialogue. Et j'avoue, c'est tout votre travail, ça, d'échanger avec vos lecteurs, de débattre. Vous avez du retour, j'imagine, j'espère. Qu'est-ce que vous voulez donner à vos lecteurs dans vos recréations du passé en vue d'un futur? Qu'est-ce que vous leur offrez?
Une fenêtre sur un potentiel avenir. Donc c'est ma fenêtre à moi en tout cas, qui après, comme je m'inscris quand même dans une science-fiction classique. Je viens enrichir un univers qui existe déjà, donc les lecteurs que je retrouve en dédicace sont des souvent fans de science-fiction, donc viennent piocher ce que moi j'ai à offrir et enrichissent leur univers personnel, pardon. Donc l'échange il se fait à ce niveau-là, c'est qu'on a...
Vous êtes à l'écoute de ce qu'on vous... du retour qu'on vous donne, ça influence votre travail présent?
Bien sûr. Pas tout le temps, mais quand j'ai des gens pertinents qui en face de moi, enfin, sont capables de d'étayer et d'avoir un raisonnement vraiment qui me touche consciemment ou inconsciemment, ça agit ouais sur mon travail à venir en tout cas.
Et comme créateur, ça vous bouscule pas qui justement la capacité créatrice.
Non, c'est ça la création, c'est ouais. Justement prendre quelque chose qui est dans l'air et puis à côté de, je fais donc de la bande dessinée, à côté je fais de la publicité, donc c'est un peu moins avouable, mais je fais du storyboard publicitaire et je suis confronté en permanence à ça, à ce truc qui est dans l'air du temps, ces tendances et voilà, l'humain, on est quand même une grande communauté et il y a des codes qui nous touchent tous, pourquoi tout le monde s'habille de la même manière, pourquoi donc dans la science-fiction on retrouve les mêmes intérêts. Un tronc commun comme ça, puis chaque auteur s'inscrit dans un univers commun, une espèce de colonne vertébrale, et puis moi je viens avec mes albums raconter ma vision et faire un petit bras comme ça qui donne un intérêt à mon travail, qui est pas unique mais en tout cas le rend intéressant, et le contact avec les lecteurs est très important, oui. C'est de là qu'on tire en tout cas, vu que j'ai quand même un travail très solitaire où je suis en permanence dans mon bureau seul dans 15 mètres carrés, d'ailleurs c'est impressionnant d'être face à autant de gens, le contact avec le lecteur est assez touchant et finalement c'est ça qu'on recherche, une reconnaissance de d'abord de la reconnaissance d'un artiste, elle se fait d'abord du côté du père, de la mère, puis après si on touche des gens en dehors du cercle familial, c'est super.
J'y arrivais très bien, c'est bien.
Comment ?
J'y arrivais très bien, c'est
bon, c'est gentil.
Et dernière chose, parce que ça file très vite, hélas, il nous reste 5 minutes voire un peu moins si on prévoit des questions. L'une des relectures du passé, c'est l'oubli aussi, ce qu'on oublie, ce qu'on retient pas. Par exemple, Christopher, vous citez souvent Graham Greene, son autobiographie, où Graham Greene dit plus ou moins qu'un vrai artiste tire son inspiration de l'oubli, de ce qu'il est capable d'oublier. Quelle est l'importance de ce qu'on retiendra pas dans les sciences, dans la création, dans l'investigation créatrice de l'histoire, quelle est la place de l'oubli en tant que rapport au passé ?
What we forget is the most important things, and what we remember are the trivial things. All the great works of literature, all the ones I can think of, were written originally for popular audiences. I think the only exception I can think of is James Joyce, who became a leading author, writing for the highest kind of intellectual reader. But everyone else, like Dickens and Victor Hugo and H.G. Wells and whoever you care to name, they wrote initially and were supported by a popular audience. And when I think that when history is written, what tends to get remembered is that sort of thing, things which attached to the public mind at the time, that the great ideas blend seamlessly into the background. They're not irrelevant. They're not what people remember. I mean, can you remember what you did a week ago? I mean, you can look at your diary and you can say, oh yeah, I was in so-and-so and I met so-and-so. But perhaps on that day, a great scientific discovery was made. You wouldn't have heard about it. And so I always think memory is a very fickle thing. And it's not something to be trusted. But it's nevertheless, it's very important to the artist. And I think the point that Graham Greene was making, if I remember it accurately, and that is a joke, if I remember it accurately, he was saying that what a writer forgets is the compost of the imagination. In other words, he doesn't remember details, but he invents them. Or, no, he doesn't invent them, he remembers them. I can't even remember what he said anyway. So everything's unreliable.
Et le, en science, s'appelle, l'oubli s'appelle le compost de la science.
L'oubli, c'est deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, les choses oubliées sont très précieuses parce qu'elles peuvent ramener du nouveau lorsqu'elles sont remises à jour. Ces choses oubliées, elles peuvent ramener du nouveau dans une science en cours. Par exemple, je pensais à des choses qui avaient été oubliées, qu'avait dit un scientifique comme Geoffroy Saint-Hilaire, par exemple, à propos de l'anatomie comparée. Eh bien, depuis qu'on fait de la génétique du développement embryonnaire, on s'aperçoit qu'on avait oublié Geoffroy Saint-Hilaire, une partie de ce qu'il avait dit, et ça, ça éclaire d'une manière tout à fait passionnante ce qu'on tire aujourd'hui de la génétique, du contrôle génétique du développement embryonnaire. Juste un petit exemple, mais... Alors, l'oubli, c'est ça, et l'oubli, c'est aussi ce qui nous permet, croit-on, les, ce que j'appelle les abus de récit, c'est-à-dire nous avons tendance à puiser dans les données scientifiques de l'histoire du vivant, ou dans les données scientifiques de l'histoire, de toute façon, des petits morceaux. Nous puisons des morceaux qui nous font plaisir, parce qu'on fait, on se fait pas plaisir seulement avec des récits religieux, on se fait plaisir avec toute forme de récit, en fait. Même soi-même, on se raconte sa propre vie, et on a tendance à laisser peut-être des aspects de sa vie sous le tapis, parce qu'on n'a pas envie trop d'y revenir. Donc, quand on est historien du vivant, on s'aperçoit que parfois, dans l'enseignement, ou dans un documentaire télévisé, ou dans un livre, l'histoire du vivant est racontée avec des oublis, et ces oublis sont là pour magnifier, amplifier celles des pièces qu'on veut raconter et qui nous favorisent. Je parlais de l'une de ces pièces hier. Un grand motif d'enseignement de l'histoire naturelle, ça a été la sortie des eaux. La sortie des eaux, on a l'impression de lire la Bible quand on dit ça. En fait, la sortie des eaux, c'est le moment, il y a 370 millions d'années, où les vertébrés, les animaux à vertèbres, ont accès à la terre ferme. Eh bien, c'est pas là, il y en a plusieurs. C'est pas une sortie, en fait, c'est l'eau qui se retire. Et puis les eaux, pourquoi au pluriel? Et puis en fait, la vie n'est qu'une oscillation permanente de sortie et d'entrée. En quelque sorte, les milieux sont poreux. Enfin, le vivant n'arrête pas d'osciller entre le vivant. Je peux vous citer plein d'animaux à quatre pattes qui sont retournés à la mer dans leur évolution. Les baleines, hein, les manchots, les loutres, les phoques, les morses, les ichthyosaures, les élasmosaures. Enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste. Mais la vie est une oscillation permanente, mais on oublie ces oscillations pour ne prendre que quelques événements qui nous héroïsent nous-mêmes en disant les vertébrés sont sortis de l'eau, tagada, c'est un grand événement, voilà. Donc les grands événements, j'y crois pas, ni en histoire, ni en paléontologie, parce que les grands événements ne sont grands que par l'œil subjectif de l'observateur qui se retourne sur une foule d'événements qui s'enchaînent. Il se passe tout le temps quelque chose, tout le temps, quelque part. Et nous puisons dans nos récits quelques-uns de ces événements pour nous, souvent pour nous rassurer. En tout cas, un peu trop, en tout cas.
Stéphane, l'oubli.
L'oubli, quand il est, l'oubli peut être dangereux lorsqu'il est délibéré, puis surtout lorsqu'il est dirigé par une masse au pouvoir. Lorsque c'est une société décide d'oublier de façon collective quelque chose, imaginons un pays quelconque, n'en nommant pas, mais qui serait responsable d'une guerre et décidait du jour au lendemain de retirer ses responsabilités de cette guerre-là, de ses manuels d'histoire, il y aurait d'autres pays autour pour lui rappeler « Hey, c'est parce que c'est ta faute là, si c'est scrap chez nous. » Ce qui fait que, dans ce sens-là, il est important de se souvenir. Toutefois, comme disait M. Priest tout à l'heure, ce qui est important, c'est ce qu'on oublie aussi. Ce qu'on va se souvenir, par exemple, d'un événement historique, ce sont de grands événements. Personne ne va se souvenir si tel fantassin avait un caillou dans sa botte. Et lorsqu'on raconte, on raconte beaucoup dans l'anecdotique et on va rechercher, on va réinventer des choses qu'on a oubliées comme société, qu'on a oubliées collectivement, comme race, comme humanité dans notre histoire. Réinventer des événements pas insignifiants, mais extrêmement mineurs, extrêmement quelconques pour se créer une nouvelle histoire. Donc oui, l'oubli en ce sens-là est quelque chose d'extrêmement riche. C'est le filon d'où on ressort toute forme de création, je pense.
C'est bon?
L'oubli, alors... Moi, mon approche du métier de dessinateur, elle est Ça a été d'abord un travail introspectif qui était presque psychanalytique, on va dire. J'ai bifurqué complètement à 15 ans. J'étais plutôt voué à faire du sport. Et à 15-16 ans, avec des soucis familiaux et autres, puis crise d'adolescence, j'ai fait une espèce de transfert où j'ai passé toute l'énergie que je mettais dans le sport, je l'ai mis dans le dessin. Donc ça a été un gros changement de direction. Et le premier moteur en fait de mon travail, ça a été justement de travailler sur mon enfance et de replonger dans mes vieux souvenirs d'enfant que j'essayais de faire ressurgir au moment du dessin. Et c'est vrai que force est de constater qu'en plus j'ai perfectionné mon dessin et plus les souvenirs se sont altérés et effectivement je suis passé de l'âge d'enfant à adolescent à parent et j'ai effectivement oublié certains détails qui étaient les premiers moteurs professionnels et qui aujourd'hui sont flous quoi. Et c'est assez assez étrange.
Donc, bien, ben merci à tous donc sur cette importance du passé revisité. Alors, on va peut-être avoir le temps d'une question, me dit-on, dans le public. Y a-t-il une question? Oui, une question, monsieur. Je ne sais pas si les micros. Y a-t-il pas de micro Il y a un oubli de micro, voilà, de la force de l'oubli. Il y a eu un... Ah. Bien, ben, je suis désolé, tant pis. Merci beaucoup en tout cas à nos invités et bonne continuation à tout le monde aux Utopiales. Merci beaucoup.
Personal thanks to the interpreters. Thank you.